mieux pour investir, le déchiffrage.
Mireille Wimbert des établissements Mireille Wimbert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là en direct avec nous ce matin. Et Galil Slimane d'Odoxa. Bonjour, on va évidemment parler du baromètre de l'épargne. Odoxa, Groupama pour Capital et BFM Business. Alors, on sortait de mois où on atteignait des records en termes d'épargne. La situation ne s'arrange pas. On va sans doute battre de nouveaux records, on est de plus en plus prudent, et puis moi je vois le mot angoisse, vraiment, dans votre... ça continue, ça va pas s'arranger, il y a des pointes assez phénoménales. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation, un environnement un petit peu volatile, mais là, encore une fois, on se distingue, nous Français, en termes de prudence, on va dire.
Oui, très prudent.
Voilà.
Incroyablement prudent, parce qu'à la limite, bon, on le sait, les auditeurs et téléspectateurs le savent, la France est un pays qui épargne énormément, c'est pas un scoop. Mmh. En revanche, l'avantage d'un baromètre, c'est qu'on suit les choses chaque trimestre de manière très régulière. Et là, on voit remonter encore le niveau d'épargne. Alors, il avait un petit peu baissé dans nos indicateurs il y a 3 mois. On avait vu que ça avait un peu, il y avait eu un petit fléchissement.
Oui.
Là, il remonte très fort. 80% des Français sont ce qu'on peut appeler des épargnants. C'est-à-dire des personnes qui parviennent chaque mois à mettre un peu d'argent de côté. Et quand on regarde ceux qui parviennent à mettre beaucoup d'argent de côté, c'est quand même 40% de la population française qui, tous les mois, met dans son petit bas de laine 200, 300, 500 euros ou plus. Ceux qui sont à plus de 500 euros, c'est une personne sur 5.
Ouais.
En même temps que nos concitoyens, à longueur de sondage, nous expliquent qu'ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Alors, paradoxe, me direz-vous, pas vraiment.
Ben non.
C'est justement parce que les Français ont peur et parce qu'ils ressentent des grosses piqûres sur leur pouvoir d'achat et sur ce qu'ils peuvent dépenser, paradoxalement qu'ils épargnent et qu'ils épargnent, et ils comptent le faire encore plus à l'avenir, nous disent-ils, et qu'ils épargnent en plus une épargne particulièrement stérile. Mais ça, on en parlera peut-être dans un second temps pour pas que je fasse un
tunnel. Oui, oui.
Et pour planter le décor, on est dans cette situation-là et quand on leur demande « Mais Monsieur Durand, Madame Michu, pourquoi épargnez-vous » Ils nous disent « Parce que ça va mal et que ça va aller encore plus mal demain. » Donc c'est déprimant. Je vous donne les enseignements, les quelques éléments. Votre capacité à emprunter, les trois quarts des Français pensent qu'elle va se dégrader dans les mois qui viennent. La fiscalité et les impôts, alors là, ils sont sûrs, mais peut-on leur jeter la pierre que les choses vont se dégrader? 85% d'entre eux nous le disent. La situation économique de la France, 92% pensent qu'elle va se dégrader. Et on était déjà très bas lors des trimestres précédents, mais ça parvient quand même à se dégrader davantage. Et alors, le rendement de son épargne, là, bah, comment dire ça? Vous avez des gens qui vous disent J'épargne. Et vous leur dites, mais du coup, tu es plus confiant sur le rendement de ton épargne. Tu penses que tu vas... Ah non. Je suis beaucoup moins confiant sur le rendement de mon épargne. Et c'est pour ça que j'épargne. Et pourquoi es-tu moins confiant? Parce qu'il y a cette crise au Moyen-Orient qui est venue s'ajouter à une situation qui était déjà une situation de surangoisse depuis la dissolution.
Oui.
Où les Français ont l'impression qu'on n'est pas gouverné, pas piloté, que la France va dans le mur. Et là vient s'ajouter cette guerre au Moyen-Orient. Et donc, on a un tiers des Français qui nous disent, depuis la guerre au Moyen-Orient, j'ai modifié mon épargne. Ah oui, et qu'as-tu fait? Eh bien, je mets en place une épargne encore plus stérile, encore plus protectrice, encore plus défensive. Donc, il y a un moment, il faudra quand même qu'on sorte de cette situation.
De mémoire, en début d'année, il y avait un petit peu cette même tendance de non mais le rendement je m'en fiche, je veux que mes sous ils soient à l'abri.
Oui,
et ça pas... c'était le budget, c'était des considérations politiques.
Mais
là
c'est...
ça revient.
Alors c'est pas nouveau, le problème des mesures que nous effectuons, c'est que elles sont suivies dans le temps. Donc on vient ensemble avec Mireille, on se parle il y a 3 mois et on va dire la même chose d'une certaine manière, sauf que ça s'aggrave. Ça s'accentue. On voit des évolutions qui montrent que les Français sont de plus en plus défensifs et que du coup, il faudra trouver des solutions quand même. On parle de flécher intelligemment l'épargne des Français. Peut-être déjà pour les rassurer politiquement, économiquement. pour qu'ils arrêtent
d'être peut-être commencer par le commencement, oui.
D'épargne stérile, mais ouais. Pourquoi pas d'épargne plus offensive et plus utile.
Et on va s'y mettre. Juste un petit détail, on avait quand même une très légère amélioration sur les mois précédents, alors qu'on était au summum du noir, du plus imprévisible, etc. Comment ça se fait que intentions sont libérées à ce moment-là ?
Alors, en bourse, je ne sais pas, Antoine, vous êtes expert là-dessus, on parle de prise de bénéfices, on parle de... Quand à un moment donné, on est tombé tellement en bas, on ne peut que remonter ponctuellement parce que l'angoisse à un moment est obligée de se relâcher. D'accord. Un petit peu.
Okay.
Mais le trend, ouais. C'est pour ça que vous regarderez les courbes pour les téléspectateurs et auditeurs, les courbes sur notre baromètre de l'épargne avec Groupama et Capital et BFM montrent que sur le temps long, en gros depuis 2 ans, on peut voir se surajouter des phénomènes comme la guerre au Moyen-Orient qui viennent accentuer les craintes, mais globalement, le français, à mon avis, à juste titre, comprend que rien de bon ne pourra sortir d'ici à la présidentielle de 2027.
Ouais.
Aucune réforme valable ne pourra être faite. On le sait depuis la dissolution. Et en cela, les gens...
Et puis on l'a vu, oui.
Les gens ne sont pas idiots. Ils ont bien compris que c'était impossible de tirer quoi que ce soit du pays d'ici à la prochaine présidentielle.
Bon, alors malgré tout, Mireille Wimbert, c'est pas le tout d'être prudent et de vouloir absolument mettre des sous de côté. On voit que là, franchement, on est dans une situation non seulement qui peut-être le justifie et puis surtout qui suit un petit peu les dynamiques du moment. Maintenant, comment ça se fait qu'on continue d'accumuler des positions importantes sur des supports qui rapportent rien? L'environnement est peut-être un petit peu en train de changer avec les dynamiques de taux. Ça, je suis d'accord. Mais raison de plus, si on épargne plus, de se dire, bon, je vais prendre un petit peu plus de risques pour que ça rapporte un peu plus. Justement, il y a le phénomène d'inflation, etc. Comment vous jugez cet état d'esprit ?
Alors, ce qui est condamnable, en fait, mais c'est
idiot. On va frapper personne.
Ce qui est idiot, c'est de laisser son argent sur son compte courant. Ça, c'est sûr, c'est bête, parce que là, ça ne rapporte rien.
Puis on perd.
Alors, après, vous me dites, des placements stériles. Le livret A, ce n'est pas stérile. Le livret A, c'est un taux faible, 1,5. 1,5% de rendement net, sans impôt, sans rien. Mais au moins, ça vous protège un peu de l'inflation. Là, elle a repris le pas, donc c'est vrai, voilà.
Puis on a dit, le livret A, c'est davantage un produit de plomberie, enfin de
c'est quelque chose de compensation. Le livret A, on met son argent là-dessus, on met 2 ou 3 mois d'avance là-dessus.
Ouais.
C'est pour les coups durs. Donc ça, c'est pas un produit de placement qui va vous permettre de financer les études de vos enfants ou votre retraite. C'est quelque chose de court terme. On protège son argent de l'inflation, on le met là en cas de coup dur. Ça, c'est une chose. L'autre placement sans risque, c'est l'assurance vie. Là, l'assurance vie bat tous les records. L'assurance vie est rentable. Le fonds garanti en euros, donc là où il n'y a aucun risque, vous mettez votre argent chaque année, il augmente comme sur le livret A du taux que va vous servir votre assureur. Là, la moyenne l'année dernière, c'était 2,60, c'est pas mal. Et cette année, ça devrait être à minima de 60, parce que c'est un paradoxe, mais les assureurs français investissent 15% à peu près dans les obligations souveraines de l'État français. Dans l'OAT, vous venez d'en parler, elle a pas mal monté. Les assureurs ont investi à ce moment-là, ce qui fait que naturellement, ça va remonter un petit peu le taux qu'ils servent à leurs assurés dans le fonds garanti en euros. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
Ouais.
Une bonne nouvelle, pardon, pour les assurés. Quand les finances publiques vont mal, quand on a des craintes sur la capacité de la France à rembourser sa dette, sur les finances publiques, etc., l'OAT monte. Et puis, normalement, quand c'est comme ça, la rémunération de l'assurance-vie monte aussi.
Ouais.
Cette rémunération, donc 2,60, l'année prochaine, ça pourrait être à nouveau 2,60 s'il y a un choc boursier. Je ne sais pas ce qui peut se passer d'ici la fin de l'année. Mais à minima, ça sera 2,60, vous voyez. Donc, là, 2,60, on est pas mal, on est à peu près protégé de l'inflation. Là, on vient d'avoir les données de la Banque de France hier, macroéconomique. La Banque de France anticipe une inflation à 2,5% en 2026.
Ouais.
Donc voilà, l'assurance vie protège encore un peu de ça. Et surtout, les 2,60 de l'assurance vie, on peut avoir plus. Il y a des bonus, puis il y a des assureurs qui servent bien plus que 2,60. 2,60, c'est une moyenne. Donc là, il y a des choses à faire. Et c'est pas forcément, on ne peut pas forcément jeter la pierre aux gens parce qu'ils investissent sur le fonds en euros de l'assurance vie. Ils ont juste besoin de sécurité. Les Français, on le sait, aiment la sécurité. En ce moment, c'est vrai qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a cette guerre, il y a les élections présidentielles. présidentielle qui se profile, avec effectivement des craintes sur les finances publiques de la France, ils se disent bah au moins là, c'est sûr, je perds pas d'argent.
Liquidité, disponibilité, alors, ça reste quand même le paramètre.
L'assurance vie, on peut investir aussi ailleurs. Hein, on peut faire son marché, mettre un petit peu sur le fonds garanti en euros là, on est sûr. Et à côté, sur les unités de compte. L'année dernière, les unités de compte en moyenne, je crois que ça a donné 4,70% le rendement l'année dernière de toutes les UC confondues en moyenne 4,70.
Ouais, ouais.
4,70 versus 2,60 sur le fonds garanti en euros. Donc, si on peut dire quelque chose aux gens, c'est de diversifier un peu. Alors, évidemment, si vous êtes totalement averse au risque, restez sur le fonds garanti en euros, bien sûr. Mais si vous avez envie de tenter des choses, mettez un petit peu une petite part et de plus en plus grande, surtout si vous avez un temps long devant vous, au moins 5 ans, mettez ça sur des fonds en actions de votre contrat d'assurance vie, il y en a, ou sur des fonds patrimoniaux, ou sur des choses qui sont un peu plus risquées certes, mais plus rentable aussi.
Plus risqué, mais ça c'est amusant parce qu'on en parle ces derniers jours. On a quand même, alors du côté, on en parlera en fin d'émission notamment avec l'IA, les hyperscalers, SpaceX, machin. On a un afflux de papiers et d'opportunités sur le marché. On a même Nvidia, la plus grosse société au monde, qui s'endette, qui émet des obligations. Du Nvidia, une obligation Nvidia à 5 ans, ça fait un rendement de 5,45. Et là, c'est garanti. C'est même pas, on prend des risques sur l'action. Il y a tout un tas d'opportunités, précisément.
C'est pour ça que c'est intéressant que vous, les experts de ces sujets, vous puissiez être entendus et le dire. Personne ne juge qui que ce soit. Mais quand on observe au niveau macro, le niveau d'épargne de nos concitoyens, y compris de gens modestes, le minimum, c'est ce que venait d'indiquer Mireille, quand on peut mettre un peu de sous de côté et qu'on peut voir un peu plus loin, évidemment qu'on ne va pas investir en bourse ou aller en mode casino, je jette les dés, on voit ce que ça donne. Mais il y a tellement de choses possibles à faire en panachage sur des produits structurés, sur des obligations.
Des fonds obligataires, bien sûr.
Il y a tellement de choses possibles à faire en raisonnant, comme le disait Mireille, en se disant, le gros de mon épargne, admettons qu'on veuille rester très sécure, et on a des rendements qui sont quand même quasi nuls par rapport. En l'occurrence, c'est comme ça que c'est conçu pour les livrets par rapport à l'inflation. Donc, vous savez que ça ne vous rapporte rien en réalité.
Ou pas grand-chose.
En tout cas, vous ne perdrez pas de sous alors que vous les en auriez perdu si vous l'aviez laissé sur votre compte courant. Mais ça ne vous rapportera rien. C'est pourquoi pas en mettre un petit peu et puis un petit peu dans le panachage. C'est quand même le conseil qu'on peut donner aux gens, sachant que dans le baromètre ce trimestre, on a testé des choses à l'occasion de la déclaration d'impôt et on voit que quand même ça bouge sur un certain nombre de sujets, notamment sur le PER où on a de plus en plus de Français, 20% qui au moment de leur déclaration d'impôt arrivent à défiscaliser un petit peu, parce qu'il y a aussi cette dimension en termes d'épargne.
Toujours.
Ils arrivent à défiscaliser en utilisant ce levier-là. Donc ça, c'est intéressant quand même.
Dernière petite chose.
Je voulais vous dire, Antoine, Mireille, vous parliez des obligations émises par Nvidia, etc. Ouais. Un particulier, il ne peut pas investir directement dans une obligation, comme c'est le cas évidemment sur une action.
En revanche,
on va leur dire. Parce qu'il y a ça. Il y a les taux américains qui sont quand même élevés. Le 10 ans américain est élevé. C'est sans risque. L'État américain ne va pas faire faillite. Donc là, pour aller sur ce genre de placement, il faut opter pour des fonds obligataires, ça s'appelle. Et là, il n'y a pas qu'une obligation dedans, il y en a plein. Et ça, c'est chez votre assureur. Vous regardez dans la liste s'il a des obligations, des fonds obligataires sur des entreprises, sur des États. Si vous ne savez pas, vous demandez à votre conseiller. Et si vous voulez profiter de ça, justement, parce que ça, ce n'est pas très risqué. Et c'est un peu plus, rémunérateur. Regardez ça.
Il nous reste une minute, Gaël, justement, allez voir votre conseiller. L'IA, tout ça.
Alors l'IA, c'est génial parce que quand même, ça capillarise partout.
C'est-à-dire
qu'on a quand même près d'une personne sur cinq, 17% des Français, qui nous disent moi, j'utilise aussi l'IA pour mon épargne, pour ma déclaration d'impôt. Je demande à l'IA de m'aider pour ma déclaration d'impôt. Je demande à l'IA de m'aider pour placer mon épargne.
17%.
17%, ça va à une vitesse folle. Mais, vous avez raison, Antoine. Le vrai sujet, c'est les professionnels de l'épargne. Donc, je dis ça, c'est pas mon boulot, moi. Mais les gens ont bien conscience qu'avec toute cette épargne qu'ils ont, tous ces doutes, toutes ces angoisses, et malgré l'IA, c'est vers les professionnels de l'épargne que les trois quarts des Français nous disent qu'ils ont confiance davantage que dans les infos qu'ils peuvent glaner ici ou là. Mais en tout cas, professionnels de l'épargne, il y a du.
il y a une attente, un besoin d'accompagnement qui est clairement exprimé dans l'étude.
Ouais. Clairement, et puis on peut être son propre pire ennemi, et l'IA va rien arranger à l'affaire, peut-être même la compliquer. Mais voilà, le conseil des professionnels reste quand même indispensable. Gaël Slimane de Doxa, merci infiniment. Vous pourrez retrouver en podcast, en replay, tous les détails avec les courbes de cette étude très complète. Mais voilà, 78% des épargnants français se disent moins confiants sur le rendement de leur épargne. Mireille Wimbert, merci infiniment d'avoir été avec nous.